France Inter.
À vous qui nous écoutez en podcast, c'est l'heure de l'apéro, quel que soit le moment de la journée. Nous avons rendez-vous au bistrot avec Marc Lévy, c'est le plus américain de nos écrivains français. Il est aux premières loges de la transformation des États-Unis. Bonjour Marc Lévy.
Oui, bonjour.
Bienvenue dans mon bistrot.
Merci.
Ça vous manque pas les bistrots français ?
Ah si. Ça fait partie des choses qui manquent le plus. Je fais une tournée de bistrot de grande en France.
C'est des lieux un peu clandés parfois aussi, les bistrots.
Oui, il faut faire le tri entre les vrais et les faux.
Ah.
Il y a le vrai bistrot, et puis après il y a le bistrot qui est devenu bistrot à touristes.
Ok.
Moi j'ai un truc par exemple pour voir le vrai du faux. Quand il y a une César salade qui s'est glissée dans la carte, vous savez que il y a compromission.
On va s'installer ?
Oui.
Charline Vanhoenacker. Bistroscopie sur France Inter.
Je voudrais d'abord, pour nous échauffer dans cet entretien, vérifier une série de choses avec vous.
Très bien, vérifions.
Parce que je me méfie des gens qui savent si bien raconter les histoires. Est-ce que vous avez bien été standardiste à RTL ?
Oui.
Ah oui ? Pour une émission qui est culte pour la génération de mes parents, en tout cas.
Deux émissions, ouais. Merci pour la génération de vos parents. Anne-Marie Pesson, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Max Meunier, les routiers sont sympas.
Ouais, Max Meunier,
ouais. Ça, c'est quand on avait très bien travaillé, c'était la récompense.
Pourquoi ? Parce que c'était l'émission la plus emblématique ou
Non, parce que l'émission était était de nuit et qu'on avait donc le droit à un défraiement panier-repas. Ce qui était, pour un étudiant, énorme d'avoir le panier-repas. Ensuite, parce que Max Meunier était particulièrement... adorable, et on était payé pour les 3 heures de l'émission, alors qu'en fait, Max Meunier nous faisait distribuer les places de concert ou les places de spectacle au bout d'une heure, et après, il nous faisait signe qu'on pouvait y aller. Donc, c'était vraiment la sucette. Si on avait bien bossé, on avait le droit de faire Max Meunier.
Vous avez été pionnier de la 3D. Est-il vrai que vous avez co-réalisé le portrait en 3D de François Mitterrand en 88, qui animait la soirée présidentielle ?
C'est vrai, mais pas que le sien, celui des quatre candidats, des deux.
C'est celui de Mitterrand qu'on retient, bien sûr.
Mais... Oui, avec la Marianne en 3 dimensions. Oui, c'est vrai.
Ah oui. Je vérifie une dernière chose. Votre tout premier livre... En réalité, c'est un fascicule technique sur l'art d'élaborer et de rentabiliser l'espace d'un siège social.
C'est vrai.
C'est pas du tout si c'était vrai.
Non, c'est vrai. Le premier bouquin que j'ai publié, c'est un bouquin coécrit aux éditions Les Échos, qui était un livre sur mon métier, qui était un métier sur le... C'était très novateur à l'époque, le métier que nous faisions, parce que c'était les toutes premières années où on faisait comprendre la relation qui existait entre l'aménagement de l'espace de travail et la vie au travail, qui n'était pas considérée dans les entreprises françaises, et notamment, par exemple, le mode de fonctionnement d'une entreprise à l'horizontale ou à la verticale, le nombre de pas parcourus par les salariés, le temps d'attente aux ascenseurs...
Ouais, on est à la maison de la radio, je peux vous en parler, ça.
Oui. Vous savez, l'architecte, c'est un métier d'utilité publique parce que c'est vraiment la conception de l'architecture. Elle est d'utilité publique, elle est très importante. Et vous avez les architectes qui pensent à eux en dessinant. Et vous avez les architectes qui pensent à ceux qui vont vivre dans ce qu'ils construisent. Mmh. Et c'est un processus mental très, très différent, mais qui a des impacts sur la société et l'aménagement de l'espace de bureau. C'était quelque chose de très... J'espère que je vous ai bien vendu ce bouquin que j'ai écrit.
Je me suis
donné du mal. Hein.
Republiez-le. Hein.
Ouais. Puis on voyait des choses incroyables dans notre métier. Là où l'ego se place, par exemple, si vous saviez le nombre de dirigeants que j'ai connus dans mon métier qui, comparaient leur pouvoir à la taille du bureau au sein de l'entreprise. J'ai entendu des gens très importants me dire « Mais est-ce que mon bureau est plus grand ou moins grand que celui du directeur financier ?»
C'est toujours le cas.
Et vous avez envie de dire « Pourquoi ?» Franchement, c'est des jeux de braquet, mais ça existe encore.
Il faut que l'ego puisse rentrer dans le bureau, c'est certain.
L'importance de la place de parking.
Ah oui, ça aussi.
Ah oui. Mais c'est très touchant et passionnant de voir là où la sensibilité se... Il ne faut pas juger. Ce qui est intéressant, c'est... Donc voilà, bref, c'était un métier passionnant.
Et là, on va arriver dans l'architecture d'une librairie, dont il y a un premier étage et des sous-sols. Dans la librairie des livres interdits, paru chez Robert Laffont, Marc Lévy, Mitch est libraire dans un État qui a promulgué une loi, HB 1476, qui interdit la vente de certains livres. Il entend bien y résister en créant au sous-sol une librairie interdite, plutôt. Et il va se lier d'amitié avec ceux qui la fréquentent. Et ça devient son univers, et ça devient notre univers à nous aussi, lecteurs et lectrices. On est immergé jusqu'au jour où c'est les flics qui débarquent et trouvent un exemplaire, je dirais, licencieux dans la librairie officielle. Ils n'ont pas découvert le sous-sol. Marc Lévy, c'est devenu la réalité aux États-Unis, ça, des livres interdits. Votre roman, il a paru il y a 4 mois déjà. C'était avant l'élection de Trump. Ça veut dire que tout ça était déjà en germe.
Ah, c'était ça, plus que germé, ça poussait déjà.
Oui, notamment en Floride, c'est ça ?
Dans les États républicains, la mainmise de l'ultra-conservatisme et des extrémistes conservateurs sur le Parti républicain ne remonte pas à la première élection de Trump. Elle remonte déjà à Reagan, et ce sont des gens qui ont préparé leur projet pendant 20 ans avec cette volonté de reprendre le contrôle de la société et d'ailleurs de mondialiser ce qu'on appelle aujourd'hui les sociétés patrimoniales, patrimonialistes, qui sont des sociétés où la propriété de l'État devient celle du dirigeant en place. C'est le cas en Turquie, c'est évidemment le cas dans les monarchies du Golfe, c'est le cas en Hongrie, c'est maintenant le cas aux États-Unis, c'est le cas en Russie, c'est le cas en Inde. Donc vous avez une caste qui va mettre au pouvoir un homme dit fort, et cette caste qui est aujourd'hui les castes d'ultra-milliardaires, et ces castes-là vont ensuite déstructurer les services publics de l'État, privatiser, parce que ça leur sert, et ensuite prendre le contrôle de la société avec un projet, parce que pour mener les foules, c'est une vieille recette, mais il faut avoir un projet religieux. La seule autorité qu'on remet jamais en cause, parce qu'il n'est pas élu, c'est celle de Dieu. Alors c'est ou ça, ou le patriotisme déguisé en nationalisme. Donc c'est en Russie, c'est le nationalisme, la guerre menée contre l'Ukraine, c'est la guerre que mène Trump contre les transsexuels, les homosexuels, la diversité. Il y a toujours un ennemi du peuple. Donc voilà, c'est toujours le même playbook. Et le playbook, il a démarré aux États-Unis il y a longtemps. Et comme dans toutes les dictatures, la culture est l'antidote au poison des dictateurs. Donc ils ont tout de suite la culture en cible de mire, puisque la culture provoque la compréhension au lieu du jugement, le ressenti, l'humanisation. Et les dictateurs ont besoin de déshumaniser.
Alors Mitch, ce libraire, il est libraire, il est héros hors la loi. Il découvre dans le sous-sol de sa librairie un endroit bien caché qui avait déjà été utilisé pour cacher les choses, donc peut-être qui date de la prohibition au départ.
Non, il découvre une cave cachée derrière un mur au sous-sol de la librairie. Et dans ce sous-sol, qui était probablement avant ce qu'on appelait aux États-Unis un speakeasy pendant la prohibition, c'est-à-dire un endroit où on servait de l'alcool, il décide d'installer une deuxième librairie, qui est une librairie clandestine, dans laquelle il réunit des étudiants et auxquels il va, deux fois par semaine, il réunit ses étudiants dans cette librairie clandestine pour leur parler des livres qui ont été interdits et partager cet amour de la lecture.
Est-ce que ça se passe un peu comme ça, cette résistance intellectuelle ? Est-ce que...
Aux États-Unis ?
Oui.
Bien sûr qu'il y a une réaction.
Parce que, vu d'Europe, déjà, on voit assez peu de réactions des démocrates, à part Bernie Sanders qui fait sa tournée avec Alexandria Ocasio-Cortez. Mais du point de vue intellectuel, en vous lisant, je me suis dit, mais des Mitch, il doit y en avoir plein, mais nous, on ne les voit pas, quoi.
La résistance anti-Trump aux États-Unis, elle est extrêmement importante. Vous avez des manifestations tous les jours. Les gouverneurs, députés, sénateurs républicains ne peuvent plus tenir d'assemblée. Et d'ailleurs, ils n'en tiennent plus, tellement leur opposition est forte. Et d'ailleurs, pas une opposition qui vient des démocrates, une opposition qui vient de leur propre camp, parce que dans la politique folle de la patrimonialisation de l'État, c'est-à-dire du détournement de la richesse de l'État au profit d'un petit nombre, évidemment, c'est la population qui est sacrifiée. Donc, vous avez des millions de gens qui se voient couper leur assurance santé, leur protection, les moyens alloués à leur école. Et d'ailleurs, ce qui est le paradoxe de cette administration folle, c'est que les États qui vont être les plus touchés sont les États républicains. C'est toujours pareil, vous savez, les gens se laissent emporter par une idéologie. Et finalement, il y a une forme d'acceptation de l'inacceptable jusqu'au moment où ça vous touche personnellement. Au moment où ça vous touche personnellement, là, tout à coup, vous n'êtes plus d'accord. Donc, je vous donne un exemple. Aux États-Unis, on a réussi à faire croire à des millions de gens aux revenus modestes que la cause de tous leurs problèmes, c'était des gens encore plus pauvres qu'eux. Vous voyez, c'est fou quand même. C'est-à-dire que le problème, c'est pas Bernard Arnault, Jeff Bezos, Elon Musk aient réussi à accumuler 200 milliards, 300 milliards, 400 milliards de fortune. Le problème, c'est le salaire du cheminot. C'est quand même à part. Mais il y a des gens qui acceptent ça. Ensuite, le deuxième ennemi du peuple, c'est l'immigré. L'immigré est responsable de tous les maux. Alors bon, la méthode, elle est très facile. On vous montre des scènes d'incivilité et on vous montre particulièrement celles qui sont dues à la population immigrée. Et aux États-Unis, particulièrement, vous voyez, sur Fox News, quand il y a des tueries dans les écoles faites par des Blancs, on n'en parle jamais. Mais s'il y a un sac à main arraché par un Mexicain, alors tout de suite, vous voyez, l'info en continu, elle est tout de suite sur la victime du sac à main, etc. Bref. Après, la troisième cible aux États-Unis, c'était les transsexuels. Les transsexuels et les homosexuels dans le sport. Alors ça, c'était l'ennemi public numéro un. J'ai entendu le discours d'un type qui m'a fait tellement plaisir et sourire, et qui est un type de mon âge. Il dit, c'est incroyable, parce que moi, en 40 ans, jamais on a sonné à ma porte. Et quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu un transsexuel me demander si je voulais bien devenir transsexuel, ou un homosexuel me demander si je voulais devenir homosexuel et vivre comme lui. Ou même un transsexuel venir me demander de l'argent, ou vous voyez, pour financer la cause des transsexuels. Mais en revanche, le nombre de fois où des gens d'église ont sonné à ma porte pour me demander de l'argent, ou des témoins de Jéhovah m'ont demandé de devenir des témoins de Jéhovah, où on a essayé de me convaincre d'être religieux, mais ça, il dit, ça m'est arrivé des centaines de fois. Il dit, avec beaucoup d'humour, donc je me demande si la tentative de conversion de la société vient vraiment des gens qu'on accuse. Mais c'est une réalité. Alors, aux États-Unis, par exemple, le questionnement des transsexuels, des toilettes transgenres, c'est devenu le sujet numéro un de Fox News. Un peu comme, vous voyez, les dadas de CNews en France, vous voyez, ces obsessions.
Oui, alors, on a les mêmes.
Oui, vous avez les mêmes.
On va parler de résistance aussi, parce que dans la réédition de votre roman « Les enfants de la liberté », toujours chez Robert Laffont et Versilio, je pense que c'est la logeuse de Jeannot, le résistant,
oui,
qui dit « Bon, arrêtez de faire vos petites réunions de résistants dans votre chambre, parce que je vais avoir des emmerdes. » Et puis, il l'emmène à l'opéra. Et c'est quand les Cheleux arrivent à l'opéra que elle est ça. Alors là, on a atteint l'inacceptable. Interrompre Léa Sémélisande, c'est pas possible.
Ouais, c'est exactement
et,
ça. Et ça elle, la touche
et,
à ce moment-là.
Il va la récupérer à ce moment-là. Donc c'est ce que vous racontez aussi finalement dans cet ouvrage. C'est votre sixième roman, celui-là, je pense.
Oui, je crois que c'était
il y a quelques
sixième,
années, ouais. Les Enfants de la Liberté, hein, qui est en réédition, donc. Hein.
Oui. Que j'ai réécrit. Enfin, c'est-à-dire que c'est une réédition, mais avec j'ai fait un travail de réécriture dessus.
C'est-à-dire il l'avait pas actualisé puisque c'est une histoire qui se déroule pendant la guerre.
Oui, j'ai
vous avez voulu le réécrire.
Oui,
c'est-à-dire
j'ai...
le Marc Lévy qui au bout de 26 romans et donc voilà, votre écriture a un peu évolué et vous vous êtes dit en le relisant, tiens.
Oui, absolument.
Ah ouais.
Si vous êtes musicien et que vous avez enregistré un concert au bout de 6 ans de boulot. Et après, vous tournez pendant 20 ans de plus, et vous allez rejouer ce concert, vous n'avez pas envie de le rejouer de la même façon, vous avez quand même appris le métier. Avec 20 ans de métier, vous avez fait des trucs avec vos doigts que vous n'arriviez pas à faire il y a 20 ans, et donc autant en profiter. J'ai pris du plaisir d'ailleurs à faire ça.
La librairie des livres interdits, ça porte un nom en français, vous savez. Alors, c'est plus trait aux bibliothèques, mais vous savez que ça s'appelle l'enfer, cette partie de la bibliothèque où il y a tous ces livres interdits. Et jamais vous n'utilisez ce mot. C'est parce qu'aux États-Unis, il n'est pas utilisé ?
Non, il n'est pas utilisé. Et puis, j'aime pas ce mot parce que ça veut dire que les livres interdits qui sont le paradis sont affublés du titre de l'enfer.
C'était sans doute du second degré, non ?
Oui, mais comme disait ma grand-mère, c'est trop fort pour la crémière. Et oui, je l'aurais pas utilisé. L'enfer, c'est la prison dans laquelle Mitch va être jeté.
Par un juge corrompu.
Voilà.
Alors qu'aujourd'hui, les juges sont le rempart au populisme aux États-Unis quand même. Hein.
Oui,
et
oui.
Ils sont visés, ils sont ciblés aussi. Bien ils devraient sûr. Finir en enfer.
Mais vous savez, en Turquie, les juges ont été les premiers remparts à Erdogan jusqu'au moment où Erdogan a mis les juges résistants en prison et les a remplacés par des hommes corrompus qui ont vêtu l'habit de juge. Et dans toutes les autocraties, regardez ce qui s'est passé en France, c'est vachement intéressant, parce qu'aucun pays n'est à l'abri de ça. Et ce n'est pas pour faire de la politique, mais c'est pour parler du rapport entre la dictature et la justice. Et pourquoi la justice nous protège de la dictature. Quand Marine Le Pen est condamnée, c'est hyper intéressant. Il n'y a pas de doute sur sa culpabilité, c'est-à-dire qu'elle est condamnée. D'ailleurs, même dans son propre parti, quand on vient devant les caméras, on s'insurge contre la peine, mais jamais contre la condamnation. C'est-à-dire qu'à aucun moment, vous n'avez une amende honorable de la part d'une chef de parti politique qui dit « Oui, j'ai piqué 4 millions d'euros dans la caisse de l'Europe sur laquelle j'arrête pas de taper. » On parle pas d'avoir volé 4 euros dans une sous-tasse de café. On parle de voler 4 millions d'euros.
D'argent public.
Ouais. Mais au moment où il y a une sanction qui est la même sanction, qui est une sanction inférieure à celle qu'elle préconisait pour les autres. Quand ça lui arrive à elle, c'est une indignation. Alors qu'elle a été la première à dire... Maintenant, regardez...
À dire que la justice était laxiste.
Oui, que la justice était laxiste. Maintenant, regardez le positionnement d'Éric Ciotti. C'est-à-dire que vous avez un homme politique français qui appartient à un parti républicain, qui ne prend pas position pour la justice, qui ne prend pas position pour son pays, qui ne prend pas position pour la démocratie, mais qui, pour une raison partisane, se corrompt en criant au scandale, en disant « oui, c'est un procès politique ». Quand vous avez un homme politique français qui se présente comme un républicain et comme un démocrate, qui affaiblit dans son discours publiquement la justice publique au nom d'une volonté partisane politique, eh bien... Ça, c'est un crime de démocratie et c'est les types comme Éric Ciotti qui conduisent aux dictatures. Sauf qu'il y a des gens qui le suivent.
Il est la courroie de transmission, vous voulez dire ?
C'est le papon du 21e siècle. Ce sont ces âmes corrompues qui ont perdu leur conscience, leur respectabilité, leur dignité par rapport à la démocratie, qui corrompent les démocraties. Ce sont ces gens qui mettent leur intérêt personnel avant l'intérêt du pays. Et d'ailleurs, la différence entre le patriote et le nationaliste, c'est que le patriote, il aime son pays, le nationaliste, il déteste les autres.
Et le nationalisme, c'est la guerre.
Voilà.
Votre livre va être interdit en PACA, hein, Marc Lévy.
Mais je m'en fous.
Moi, enfin, écoutez, j'ai bien compris.
Non, mais je m'en fiche. Justement, moi, j'ai des livres qui sont interdits dans des pays parce que j'ai dit la vérité sur ce que. Parce que j'ai dit ouvertement ce que je pensais. Mais je mets au défi M. Ciotti de. Je ne sais pas, une agression contre lui. Il s'appellerait Pipolioni ou Dupont. Ce serait pareil pour moi. Ça n'est ni l'homme en tant que personne que j'attaque. Je suis factuel. Je dis simplement, quand un responsable de parti politique, républicain et démocrate, s'en prend au juge, si Éric Ciotti avait dit « cette condamnation est scandaleuse parce que Mme Le Pen est innocente », j'aurais dit « très bien, tu prends parti pour... ça te regarde ». Mais ce n'est pas le cas. À aucun moment, ceux qui ont attaqué nos juges sur cette décision judiciaire n'ont remis en cause la culpabilité ou pas. Ils ont remis en cause... l'application de la peine du juge. Si, en tant que responsable de parti politique, vous attaquez la justice d'une démocratie et qu'aux yeux du public, vous dites ouvertement au public que les juges sont corrompus, alors que c'est vous le corrompu, vous attaquez la démocratie. C'est pour ça que je dis, ce sont les papons d'aujourd'hui, ces gens-là.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
Marc Lévy, dans le livre La librairie des livres interdits, évidemment, c'est aussi une occasion de parler de ces livres. Donc, vous les listez, vous les expliquez. Donc, il y a comme un tuto résistance. Moi, je l'ai pris comme ça.
En citant les livres qui sont
oui, là. Oui, en parlant, parce que c'est le libraire qui en parle, ses lecteurs, qui les glisse sous le manteau, etc. Donc, il y a une incitation à les lire aussi qui montre la valeur du livre dans la société aussi.
Ce qui est intéressant, ce que raconte le livre, surtout, bien sûr que c'est l'action de résistance de Mitch, mais surtout ce qui raconte le livre, c'est pourquoi est-ce que les autocrates, les dictateurs, les ultra-conservateurs s'en prennent aux livres. Pourquoi est-ce qu'il y a des autodafés? Pourquoi est-ce qu'on brûle les livres? Pourquoi est-ce que quand Trump arrive au pouvoir, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, parce que ça pouvait pas exister avant, mais il y a un autodafé digital, puisque il y a près de 4000 pages qui ont disparu des sites du gouvernement. Et ces pages, à chaque fois, font référence à des mots qui ont été bannis. Parce qu'on en est aussi arrivé au niveau du bannissement des mots, simplement. Alors pourquoi ? Eh bien parce que là où les chaînes d'info en continu, comme Fox News ou CNews, nous vendent de la haine à longueur de journée et nous divisent, là où les réseaux sociaux déversent un poison collectif, qui est encore une fois, le poison de la division et de la haine et de la peur, les livres provoquent l'effet contraire. Les livres sont un antidote et un formidable remède sociétal. Le livre est un vecteur de vivre ensemble extraordinaire. Pourquoi ?
À part Mein Kampf, on va dire.
Mais même Mein Kampf, parce que si vous lisez Mein Kampf, normalement, vous vous rendez compte de la folie du projet nazi. Et donc, si vous avez un
cerveau... Si on le lit avec un regard critique.
Non, vous le lisez avec un regard humain. Vous n'avez pas besoin. Oui, si vous lisez le bouquin de Jonathan Little qui vous plonge dans la tête.
Les bienveillantes.
Oui, les bienveillantes. Vous n'avez pas besoin d'avoir un esprit critique pour vous dire j'ai pas du tout envie de ressembler à ce mec-là. Le livre vous permet. D'abord, le livre, c'est un moment que vous vous offrez à vous, et c'est un des rares moments d'évasion que vous vivez seul. Un film, vous le voyez au milieu d'une salle de 300 personnes ou en famille. Une musique, vous l'écoutez au milieu de tout le monde, vous chantez en chœur dans la voiture. Un livre, si quelqu'un lit par-dessus votre épaule, vous remettez le livre contre vous, parce que le livre, c'est un lien absolument, c'est une bulle que vous vous accordez. Et dans cette bulle, parce que justement le rapport à la lecture est un rapport très individuel, dans cette bulle, vous êtes entièrement libre. Personne ne vous regarde en train de lire. Enfin, personne ne sait ce que vous êtes en train de lire. Donc, si quand vous lisez, vous êtes à un moment de lecture où vous souriez, où vous êtes triste, où vous êtes ému, où vous êtes révolté, personne ne peut vous juger. Et vous savez que personne ne peut vous juger puisque personne ne sait ce que vous êtes en train de lire au moment où vous réagissez. Cette liberté, au moment de la lecture, elle vous apporte un pouvoir dont les autocrates... Et d'une manière générale, ceux qui veulent vous imposer leur mode de vie cherchent absolument à vous ôter. Et ce pouvoir, c'est le pouvoir de comprendre au lieu de juger, c'est le pouvoir d'aimer au lieu de détester, c'est le pouvoir. Pourquoi croyez-vous que les milieux intellectuels prétentieux ont toujours cherché à stigmatiser vos lectures ? Parce qu'il y avait une insupportable liberté qui vous était accordée. Comment vous lisez du Harry Potter ? Mais quelle honte ! Mais non, ne lisez que les livres qui me plaisent. Et surtout pas ceux qui vont vous plaire, parce que vous pourriez vous faire votre propre jugement. Et si vous vous faites votre propre jugement, mon avis va perdre de son importance. Vous voyez, c'est ça le début de l'autocratie aussi. Donc, la lecture, tout ce roman, c'est un grand cri d'amour pour dire notamment aux plus jeunes lecteurs que la chose la plus sexy du monde, c'est de lire. Parce que la lecture vous donne une extraordinaire envie d'aimer. Vous ne pouvez pas lire les romans de Toni Morrison et céder à la rhétorique de CNews. C'est fini. Mais pourquoi ? Parce que là où la rhétorique, ultra-conservatrice ou extrémiste cherche à vous faire détester l'autre, le livre vous oblige à le rencontrer. Et donc là où les marchands de haine déshumanisent, le livre fait le contraire, il humanise.
Je voudrais revenir un peu, on arrive doucement à la fin de l'émission, je voudrais revenir un petit peu sur notamment votre engagement à la Croix-Rouge. Est-ce qu'il vient de ce passé familial ? Je disais tout à l'heure que sont réédités les Enfants de la Liberté, paru chez Robert Laffont. Et le récit de votre... c'est un roman, mais c'est inspiré de votre père résistant. La Croix-Rouge, la guerre, la résistance. Est-ce que vous êtes engagé dans la Croix-Rouge parce que ça vous a travaillé, tout ça ?
Je suis rentré à la Croix-Rouge à 18 ans parce que mon père m'a fait lire Les raisins de la colère à 15 ans et demi. Et je parlais tout à l'heure du pouvoir des livres. Une fois que vous avez lu Les raisins de la colère, vous ne pouvez plus être insensible à la misère. Je suis rentré à la Croix-Rouge, peut-être inconsciemment, parce que les valeurs que mon père et ma mère m'avaient apprises me donnaient avant tout envie d'être utile.
C'est un sacré engagement, d'autant plus que vous travaillez dans la désincarcération des accidents de la route.
Oui, mais je dirais que la sensation d'utilité était assez immédiate, ou pas, je sais, et ça, c'est la vie qui vous mène là. À l'époque, c'était le tout début de l'urgence urbaine qui, à l'époque, était assurée par Police Secours, et ce qui posait un problème de santé publique, parce qu'évidemment, tous les gens qui étaient dans des situations un peu en déliquescence avec la loi hésitaient à appeler les secours. Et c'est comme ça que le SAMU est né, que le Centre 15 est né. Et au début, il y avait peu de moyens, et donc il y avait beaucoup d'alliances avec la Croix-Rouge qui apportait des moyens humains et techniques.
En me rappelant cet épisode de désincarcération des accidents de la route, je me suis dit, c'est vrai, dans votre premier roman, vous tuez votre héroïne dans un accident de voiture dès la page 3.
Oui, c'est vrai.
Et si c'était vrai, c'est ça.
Je ne la tue pas vraiment, mais elle est dans le coma.
Oui, bien sûr.
Dès la page 3. Mais il y avait une scène d'urgence qui était très tirée d'ailleurs de...
Ah oui, oui.
Oui, oui.
On sent que vous maîtrisez le domaine.
Oui, j'avais pas besoin de faire de recherche. J'avais bossé ma copie.
Ouais. Ah oui, je vois bien. D'ailleurs, je me suis posé la question aussi, vous parlez de bosser votre copie, toujours pour les Enfants de la Liberté. Comment vous avez travaillé pour vous replonger dans cette période ?
Les Enfants de la Liberté, c'était un long travail de recherche. D'abord, j'étais parti rencontrer les survivants, que j'ai interrogés pendant des années, et donc toutes les bribes d'histoire.
Parce que d'histoire de la vie quotidienne aussi.
Mais en fait, les Enfants de la Liberté, c'était ça, l'envie. Des livres sur la guerre et sur la résistance, il y en avait beaucoup. Mais je n'avais jamais réussi à lire de livres qui racontent ce qu'était le quotidien de la résistance. Et en fait, ce qui m'intéressait, quand j'ai écrit ce livre, c'était, au travers de l'écriture, de comprendre ce que ça veut dire d'entrer en résistance. Comment on entre en résistance. C'était passionnant. Moi, j'ai vu... Je me souviens d'un jour, on est allé prendre un café avec mon père chez un de ses copains de la brigade, s'appelait Claude Durmand. Et papa, en arrivant, me dit, tu te rends compte, un jour, Claude, il se promenait dans la rue, et puis il passe devant le siège de la milice et il voit qu'il y a une fête qui est donnée. Et il y a un livreur qui est en train de livrer des caisses de champagne. Et il dit au livreur de se barrer, il prend une des caisses de champagne, il met 3 grenades dedans. Il monte au deuxième étage du siège de la milice. Il en dégoupille une quatrième qu'il remet dans la caisse. Et il redescend les escaliers et il se barre. Et il dit, et c'est comme ça qu'on a descendu le chef de la milice. à Matabiau. Et puis il se retourne vers Claude Durmand et lui dit, c'est comme ça que ça s'est passé, hein. Et Claude Durmand se marre et il me regarde, moi, et il me dit, ouais, ça s'est passé exactement comme ça, sauf que c'est pas moi qui ai fait ce coup-là, c'est ton père. Et mon père regarde Claude et lui dit, mais enfin Claude, tu dis n'importe quoi, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est toi. Deux gamins en train de dire, vous savez, c'est pas moi, c'est toi, c'est pas moi. Sauf que là, pour le coup, c'était plutôt valorisant de dire c'est toi. Et ils se chamaillent tous les deux comme ça, mais pendant 10 minutes, en disant non, mais enfin, c'est pas moi. Et puis à un moment donné, comme deux gamins, ils appellent la femme de Claude qui était dans la cuisine en train de préparer des cafés. Paulette. Alors Paulette arrive. Oui, qu'est-ce qu'il y a? plus connu, siège de la milice. C'est lui ou c'est moi ? Demande Claude. Et Paulette se retourne vers mon père en disant à mon père, mais écoute Raymond, c'est toi. Et papa dit, mais non, c'est pas moi. Il dit, mais enfin, Raymond, Claude était en prison au moment où... Et là, je vois vraiment mon père avec ce visage hyper penaud. Je dis, ah bon, c'est moi qui ai fait ça. Bon, j'étais sûr que c'était Claude.
C'est fou.
Et en sortant, je lui dis, mais enfin, écoute, papa, vous êtes complètement fou. On n'est pas en train de parler de qui a roulé avec les pneus dégonflés, quoi. De la bicyclette, on est en train de parler... Et Claude a eu cette phrase incroyable. Il m'a dit, tu sais, Marc, ça n'a aucune importance. Qui a fait quoi ? Nous n'étions qu'un. Et cette phrase, elle m'a énormément guidé dans l'écriture. Ce « nous n'étions qu'un », et en fait, c'est une phrase qui m'a appris énormément de choses. C'est que la résistance individuelle, c'est une résistance du quotidien. C'est le fait de résister... à la tentation de passer son chemin. Mais dans cette résistance individuelle, qui peut être la résistance de milliers de gens, nous ne sommes qu'un. Et ça, c'est un lien d'humanité qui est extraordinaire. Et quand vous prenez conscience de ça, vous prenez conscience d'une appartenance à l'humanité qui est beaucoup plus forte que toute autre appartenance. Vous voyez, il y a la joie d'appartenir à un club de foot, d'appartenir, vous voyez, à un club de bridge, d'appartenir à un milieu. Mais quand, en vous couchant le soir, parce que vous vous êtes inscrit dans cette petite résistance individuelle, cette résistance des petites choses du quotidien, vous êtes conscient que vous n'êtes qu'un avec tous ceux qui résistent comme vous et que vous faites partie de cette humanité, là où d'autres ont perdu cette étincelle d'humanité qui leur a été confiée. Bah quand vous êtes conscient de l'avoir préservée une journée de plus, hein, ça apporte une paix au moment de s'endormir. C'est peut-être pour ça, vous voyez, que je suis rentré à la Croix-Rouge. C'est juste pour avoir cette paix-là, quoi, me dire le soir, j'ai fait un truc dans la journée, quoi.
Merci Marc Lévy.
Mais je vous en prie.
Je pense qu'on peut rester sur ces paroles.
Si vous voulez.
On était au bistrot et moi j'ai bu vos propos.
Oh, c'est gentil, merci beaucoup.
Vraiment. Ainsi s'achève Bistroscopie. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à 19h20. Merci à Ophélie Vivier, chargée de programme, à Anaïs Reynard à la réalisation, à Laurent César à la technique, accompagné de son stagiaire Raphaël Flotté. Merci à Pauline Laverdure au mixage et au service documentation de Radio France.